BFM TV, Calvi 3D, Yves Calvi.
Séduire et rassurer. Les représentants des principaux partis ont présenté leur programme devant les organisations patronales ce matin. Des patrons inquiets, notamment de certaines promesses du Rassemblement national et du nouveau Front populaire. Comment s'est passé ce grand oral? Par qui les dirigeants d'entreprise ont-ils été convaincus? En tout cas, il y en a un qui est confiant, c'est Éric Coquerel de la France Insoumise et on l'écoute.
L'écrasante majorité des Français et l'écrasante majorité des chefs d'entreprise ont intérêt à notre politique parce qu'elle va remplir leur carnet de commandes, parce qu'elle va leur permettre de mieux payer leurs salariés, parce qu'elle va permettre d'avoir une relance de l'activité économique.
Avec nous ce soir, Gérard Longuet, ancien ministre notamment de la Défense et de l'Industrie parmi d'autres, et ancien sénateur Les Républicains. Anne de Guigné, grand reporter au Figaro Économie, auteur du livre « Ils se sont si souvent trompés, 10 grandes erreurs qui ont bouleversé l'économie mondiale » aux éditions du Rocher. Gérard Longuet est d'accord avec vous. Chloé Ridel, eurodéputée, Parti Socialiste, Place Publique et porte-parole du Parti Socialiste. Sylvain Maillard, député sortant, Renaissance de Paris, candidat donc à sa réélection. Bonsoir. Alors, ça y est, vous m'avez demandé tout à l'heure de ne pas abîmer votre nom. Comment je le prononce ?
Sébastien Ley,
chef d'entreprise, entrepreneur et candidat investi par les Républicains et le Rassemblement National dans les Hauts-de-Seine. Et enfin, ma consoeur Edwige Chevrillon, journaliste de BFM Business. Edwige, vous avez largement participé et organisé ce grand oral. Y a-t-il un parti qui a réussi, on va dire, à se démarquer ou à convaincre plus particulièrement les patrons? Surprenez-nous.
J'ai envie de dire que non, sauf que, bon, évidemment, il y en avait un qui jouait à domicile, hein, comme il a dit lui-même, c'est Bruno Le Maire. C'était peut-être l'exercice le plus facile, mais presque trop facile, du reste. Parce qu'il est parti un tout petit peu, bon, on le connaît, on l'a souvent interviewé, il est parti, comment je vais remonter la remontada sur les dépenses publiques, et qu'en l'occurrence, bon, il n'est plus tellement crédible aujourd'hui.
S'il avait remonté quoi que ce soit, on le saurait.
Oui, voilà, exactement. Du reste, c'est la première question que je lui ai posée. Hein, c'est de lui dire, vous voyez, si on est tous là, c'est peut-être parce que vous avez laissé filer les dépenses publiques, parce que ce soit Éric Coquerel, ou que ce soit Brice Vallot, Jordan Bardella, Éric Ciotti, en tous les cas, ils ont tous dit, regardez dans quel état se trouve la France. Donc voilà pourquoi on a notre programme.
Anne de Guigné, ce n'est pas tant la couleur politique des partis que leurs mesures qui comptent pour les patrons. On va rappeler quand même qu'ils ne sont pas vraiment de gauche, nos chefs d'entreprise.
Non, et puis ils aiment la stabilité.
Oui.
Et c'est vrai qu'ils avaient Bruno Le Maire depuis 7 ans avec un cadre assez clair. Et dans les deux cas, que ce soit le RN ou le nouveau Front Populaire, c'est un saut dans l'inconnu. Et les patrons, ça leur fait peur. Ça fait peur aux investisseurs internationaux. Et ça fait peur aux marchés. On voit vraiment que la dette a décalé sur les marchés. Il n'y a pas de crise de la dette encore.
Oui.
Mais il y a clairement une forte tension. Et donc, il y a une inquiétude qui est générale. Ce n'est pas juste une humeur comme ça du MEDEF. Il y a vraiment de l'inquiétude. Parce que les investisseurs, ceux qui détiennent la dette française, ce sont beaucoup d'Asiatiques, d'Américains. Donc, c'est une inquiétude. Voilà, le monde regarde la France. On pensait que le risque géopolitique viendrait plutôt des États-Unis, de l'élection américaine. Et en fait, c'est la France, là, qui inquiète vraiment les investisseurs internationaux. C'est assez factuel. On le voit vraiment, on le voit très clairement sur les marchés.
On a le retour de l'instabilité politique, C'est ça qui fait peur. C'était un peu notre image de marque sur les marchés financiers.
On est bien d'accord.
Et là, c'est sûr qu'on y retourne.
On rentre dans le vif du sujet et on va détailler quelques mesures présentées ce matin. Nous allons commencer par la principale préoccupation des Français, évidemment, le pouvoir d'achat. Chloé Ridel, dans votre programme, il y a bien sûr l'indexation des salaires sur l'inflation et l'augmentation du SMIC à 1600 euros net. Les mesures sur les salaires sont les plus onéreuses. Elles sont évaluées à 23 milliards d'euros et elles posent quand même question, notamment la capacité des entreprises à financer ces augmentations et ses conséquences sur l'emploi. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors, l'augmentation du SMIC que nous proposons à 1600 euros net, qui me semble être un montant de décence minimale pour vivre dans notre pays, c'est 4 milliards d'euros que nous avons chiffré cette mesure. Et nous la finançons parce que l'essentiel des travailleurs qui touchent le SMIC dans notre pays sont employés par des TPE et des PME.
Oui.
Et n'importe quel patron de TPE-PME vous répondra qu'il préfère mieux payer ses salariés avec lesquels il entretient une relation de proximité, mais par contre payer moins d'impôts. Et précisément, nous financerons, pour éviter des surcroîts de coûts pour les PME, la hausse du SMIC avec des crédits d'impôts, mais ciblés sur les TPE-PME. Et donc, c'est 4 milliards d'euros. Et j'invite à regarder ce qui s'est passé dans des pays voisins. En Belgique, le SMIC est à 2000 euros net. Le chômage en Belgique est à 5%. Donc quand on nous dit augmenter le SMIC, ça va créer du chômage, c'est pas ce qu'on voit dans les pays voisins. Pareil en Espagne, où le gouvernement de gauche a augmenté le SMIC de 50% sur la mandature et où le chômage n'a pas augmenté.
Un certain nombre d'économistes expliquent que votre mesure, qui paraît exprimée comme ça, paraît logique, va créer du chômage.
Mais non, encore une fois, ça n'est pas ce que montre. Ça n'est pas
parce que le coût du travail sera trop important.
En fait, c'est un pari sur un choc d'offre du travail. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui, du fait de l'augmentation du prix du gasoil, quand on a besoin de sa voiture pour aller travailler, pour un SMIC à 1400 euros, ne s'y retrouvent pas et préfèrent, enfin, je veux dire, ne peuvent pas travailler du fait de cela. Donc vous augmentez le SMIC, vous leur permettez non seulement de vivre dignement, mais de faire en sorte qu'il soit plus avantageux de travailler que de ne pas travailler pour des travailleurs.
Ce n'est pas l'État qui va payer, la question c'est est-ce que les entrepreneurs ont les moyens de financer ça ?
Mais précisément, nous leur donnerons les moyens pour les TPE-PME, pas pour les grands groupes, parce que je rappelle encore une fois qu'aujourd'hui, les TPE-PME dans notre pays sont plus taxés que les grands groupes. Précisément pour les TPE-PME, nous ferons un crédit d'impôt qui leur permettra de financer cette hausse du SMIC.
Elles ne sont pas plus taxées, c'est juste une question d'optimisation fiscale éventuellement, mais elles sont pas, elles sont soumises au même à l'impôt sur
Mais le problème, c'est que l'optimisation fiscale crée des inégalités monstres entre entreprises. Monstres. Et, pardon, mais juste je termine là-dessus. Comment dire ? Le problème des entreprises en France, notamment pour nos entreprises industrielles, c'est qu'elles sont exposées à une concurrence internationale complètement débridée, déloyale. Qu'a fait ce gouvernement pour les protéger de la concurrence ? Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec une politique publique assez, comment dire, déterminée sur, avec l'Inflation Reduction Act, etc., avec des droits de douane qui sont remis aux frontières pour protéger les entreprises américaines de la concurrence chinoise, etc., qu'est-ce qu'on a fait, nous, en Europe ? Donc ce gouvernement est quand même très mal placé pour donner des leçons en matière économique, d'autant que la Commission a placé la France, il y a deux jours, sous procédure de déficit excessif.
Une phrase, parce que je voudrais donner la parole à Gérard Longuet.
Non, juste une phrase. Là, on mélange un petit peu tout, si je puis me permettre. C'est-à-dire que vous avez raison, l'Europe a mis la France sous surveillance, on peut dire ça comme ça. Mais en revanche, pour les PME et les TPE, ce qui peut leur nuire, c'est l'augmentation des salaires, c'est le fait d'avoir des marges très faibles. C'est parce qu'à ce moment, elles perdent de la compétitivité. Pourquoi il y a des délocalisations dans les pays de l'Est? Je discutais justement avec une députée de Seine-Saint-Denis qui disait, bon, ben voilà, moi, sa ferme, c'est Aurélie Trouvé tout à l'heure qui disait qu'il y a un fournisseur de Stellantis qui ferme, qui va s'installer ailleurs. Oui. Pourquoi? Parce que, et voilà, il est plus compétitif, ça coûte moins cher de produire ailleurs.
Gérard Longuet, chez les Républicains, on mise sur une augmentation des salaires pour ceux qui gagnent jusqu'à 4 200 euros net et une réduction des cotisations sociales. Pourquoi ce plafond à 4 200?
En fait, on a remarqué d'une façon systématique que tous les efforts portant sur le seul SMIC que vous proposez aboutissaient à créer des effets pervers, des injustices, et en particulier, les entreprises ont besoin de personnel qualifié qui sont payés au-delà du SMIC et qui coûtent beaucoup plus cher. C'est-à-dire que au SMIC, les charges, vous le savez, sont faibles ou prises en charge totalement par l'État. Mais dès qu'on quitte le niveau du SMIC, là, ça commence à douiller, si vous me permettez cette expression. Et c'est assez dissuasif. Je voudrais revenir sur votre indexation. Il y a un pays qui pratique l'indexation des salaires, c'est nos voisins belges. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que chaque fois qu'il y a une possibilité de délocalisation, les entrepreneurs belges vont immédiatement...
Le taux de chômage est à 5% en Belgique, monsieur.
Immédiatement, parce que l'indexation des salaires aboutit à des charges qui menacent les marges et qui menacent les capacités d'investissement. Et beaucoup d'entreprises ont délocalisé pour fuir justement l'indexation. Alors vous me dites, il n'y a que 5% de chômeurs. Très bien pour l'instant, il y a aussi la démographie belge. Mais l'indexation est une catastrophe. J'ajoute que l'indexation a un effet pervers, c'est que tout le monde demande à être indexé. Et à ce moment-là, vous avez une société inflationniste.
Sébastien Ley, au Rassemblement National, on joue plutôt sur la baisse de la TVA de l'électricité, sur l'électricité, le gaz, le fioul, le carburant. Jordan Bardella déclare, ça coûte 12 milliards, c'est une priorité budgétaire que nous assumons.
Alors d'abord, ma candidature, c'est celle d'un économiste et d'un entrepreneur. Et moi, à chaque fois que j'ai été présent sur les plateaux télé au cours des dernières années, mon discours s'inscrivait toujours dans le cadre du réalisme économique. Et je vais continuer à maintenir ce discours alors que je m'engage en politique. Alors pour revenir sur cette mesure, qui n'a pas été la première mesure d'ailleurs présentée ce matin devant le MEDEF, rappelez-vous, on a d'abord parlé de défiscalisation et de désocialisation des heures supplémentaires ou de augmentation de salaire. On a parlé de la baisse.
Je vous interroge sur la baisse de la TVA. Je veux bien que vous y répondiez.
Et on a dit, avec plus de marge de manœuvre après un audit public, on regarde la baisse de la TVA.
Oui, mais c'est la baisse de la TVA,
trois points. Premier point, est-ce que vous connaissez le montant de la TVA rapporté au PIB en France et la moyenne en Europe? En France, c'est 12,2%. En Allemagne, c'est 10,5%. Donc il y a bien un surplus de taxation des Français sur la consommation. Donc c'est une injustice, il faut s'y atteler. Deuxième point, on va le faire de manière très ciblée sur des catégories de Français qui souffrent, qui n'arrivent pas à se chauffer correctement, à utiliser leur voiture, leur carburant. C'est des catégories où on sait que si vous redonnez des marges de manœuvre aux Français, ils vont pouvoir consommer.
Donc nous sommes bien d'accord, ça n'est pas pour tout le monde.
Mais c'est sur des catégories de produits où vous comprenez bien que l'impact n'est pas le même pour le Français qui a des difficultés pour se chauffer ou pour quelqu'un qui n'en a pas. Donc la propension à consommer chez les catégories de Français les plus pauvres, quand vous réagissez à une baisse de la TVA, elle est beaucoup plus forte. C'est un mécanisme économique évident.
Bah oui, mais ça s'applique à tout le monde.
Et troisième, ça s'applique à tous les produits.
Sauf que ceux qui se chauffent correctement, ils ne vont pas augmenter leur consommation s'ils se chauffent déjà correctement. Si au contraire, je souffre et que j'ai des difficultés à me chauffer et qu'on baisse la TVA, je vais pouvoir enfin me chauffer et ne pas avoir froid chez moi. C'est quand même un mécanisme basique.
Pardonnez-moi,
on vient de vous dire budgétairement totalement irréaliste.
Troisième point, on en a parlé ce matin, on a un plan ambitieux, encore une fois le réalisme économique, pour baisser les dépenses publiques. On l'a dit ce matin, c'est bien pour ça qu'il y aura un audit. On a parlé de simplification, vous vous rappelez...
Quand on commence à faire des audits, généralement, c'est qu'on ne veut plus rien faire.
Non, écoutez, ça c'est un faux procès. Tous les économistes connaissent les problèmes, ça c'est la vision macroéconomique, je l'ai moi aussi. Après les détails, je ne l'ai pas. Le hors-bilan de l'État sur les retraites, il y a eu des questions posées par les parlementaires, personne n'arrive à voir le fin mot de l'histoire. Donc on dégagera des marges de manœuvre pour financer toutes les baisses d'impôts, celle-là, mais aussi la baisse des impôts de production.
Sylvain Maillard, vous aussi, vous promettez une baisse de la facture d'électricité de 15% dès l'hiver prochain, mais en fait, elle sera mécanique, car quand on observe le marché, en fait, le prix du mégawattheure baissera d'environ 20%. Oui. Voilà. Mmh. Combien dites-vous ?
Je dis heureusement.
Ah oui, pardonnez-moi. Je vais vous donner un autre chiffre. Environ 20% en début d'année prochaine. Donc, en fait, vous ne faites aucun effort sur ce point, puisque ça s'impose en quelque sorte.
Nous, ce qu'on veut, c'est évidemment redonner des marges de manœuvre à l'ensemble des Français et faire en sorte que le travail paie plus. Moi, j'entends les propositions qui ont été...
Pourquoi vous ne répondez pas à ma question ? C'est que je vous dis que vous, apparemment, vous faites semblant de faire un cadeau aux Français, en fait.
C'est pas faire semblant, c'est qu'on souhaite, notre objectif c'est de baisser la facture d'énergie.
Mais ça va se produire automatiquement,
annoncer quelque chose qui se produira de toute façon, excusez-moi, ne peut pas être présenté comme une mesure.
Yves Calvi, deux choses. Un, il faut qu'elle baisse et nous l'accompagnerons et nous disons, nous prenons cet engagement. Deuxième chose, l'idée c'est pas de financer, de faire attention à nos finances publiques. Vous venez de faire un débat en disant attention aux finances publiques. Edwige Chevrillon dit attention aux dépenses publiques. Nous sommes la majorité qui faisons attention et nous ne promettons pas 350 milliards de dépenses ou 100 milliards de dépenses par an que nous ne pourrons pas financer. Nous, ce qu'on veut, c'est que les Français aient plus d'argent à la fin du mois, faire en sorte que le travail paie plus. C'est pour ça qu'on propose une prime Macron 3, c'est-à-dire améliorer, faire en sorte qu'on puisse les entreprises puissent donner du net directement dans la poche jusqu'à 10 000 euros mensualisés directement à vous, sans impôts, sans charges. C'est très concret. Mais en même temps, il faut que nous soyons responsables. Nous sommes la majorité depuis 7 ans et nous devons être responsables. Moi, j'entends l'indexation. Vous savez que le SMIC, l'année dernière, a augmenté de 11%. Est-ce que c'est suffisant ? Moi, j'entends qu'il y ait des discussions. Vous proposez un crédit d'impôt, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas les moyens d'avoir un crédit d'impôt parce qu'elles perdent de l'argent.
L'indexation des salaires, c'est pas que le SMIC, monsieur.
Est-ce que vous connaissez des patrons qui ont plaisir à mal payer leurs salariés ? Moi, je ne connais pas de patrons qui ont mal plaisir à
payer. Je peux vous en présenter quelques-uns.
Il y a beaucoup de patrons qui n'ont pas les moyens de payer plus.
Vous ne connaissez pas les rapports de force au sein de l'entreprise ou de pas fréquenter le syndicat ?
Vous savez, la différence entre vous et moi, je suis moi-même chef d'entreprise, je ne connais pas de patrons qui payent mal leurs salariés parce que ça leur fait plaisir. Est-ce qu'ils ont les moyens ou pas les moyens ? Et donc, ce système d'indexation, ce système d'obligation est une trappe à bas salaire. C'est notre problématique. Ce que l'on veut, c'est donner du pouvoir d'achat à chaque Français. Et là, c'est très concret ce que nous proposons sur une prime nette. Sans impôts, sans charge sociale.
Anne de Guigné, ça vous inspirait apparemment la prime Macron. Pourquoi ?
Ça marche pas. Non, c'est la prime Macron. C'est sympa, on voit bien, c'est l'idée.
6 millions de salariés l'année dernière.
Oui, mais,
depuis le début de l'année, vous savez
que... 685 euros. La moyenne, c'est 860 euros en moyenne. La prime qui a été accordée l'année dernière. Donc, aucune entreprise, on connaît bien les problèmes des marges des entreprises, vont donner 10 000 euros.
Si je vous dis c'est déjà ça, vous me trouvez ridicule ? Enfin, je...
Non, mais c'est une cotisation sociale, en plus. C'est des programmes qui sont faits rapidement. On ne voit pas comment le pouvoir d'achat va augmenter par la prime.
Cloridel, la socialiste Valérie Rabault.
Non, mais attendez, juste un instant. C'est plébiscité par l'ensemble des salariés quand vous avez les moyens.
Mais personne n'est contre, ça, je vous rassure.
Personne n'est contre. C'est dénoncé par un peu plus d'économistes, parce que ça ne marche pas.
Non, mais c'est 10 000 euros qui paraît.
6 millions de Français ont pu en bénéficier.
C'est 2 000 euros.
La question n'était pas à 10 000 euros. Merci. Je peux m'exprimer.
Allez-y.
Le SMIC. Non, mais votre question, c'était, vous allez me citer Valérie Rabault.
Oui.
Non, mais moi, je voulais réagir à la proposition du Rassemblement National et LR pour rendre du pouvoir d'achat aux Français qui repose sur la baisse de la TVA. Ça peut paraître beau comme ça. On se dit, tiens, on va baisser la TVA et puis ça va rendre du pouvoir d'achat aux Français. Moi, ce que je veux dire, c'est que non seulement ça coûte très cher pour les finances publiques, un point de TVA, c'est autour de 6 milliards d'euros pour les finances publiques, et on a vu par le passé que ça ne permettait pas de rendre du pouvoir d'achat aux Français. Pourquoi ? On l'a vu avec la restauration. Pourquoi ? Et bien parce que les entreprises en profitent pour reprendre et se refaire des marges dessus. Donc c'est une mauvaise proposition pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et encore une fois, nous, au Nouveau Fonds Populaire, nous proposons l'indexation des salaires, le SMIC à 1 600 euros qui aura un impact aussi sur l'ensemble de l'échelle.
On ne va pas faire tout le programme.
Des salaires. On ne va pas faire tout le programme.
Non, mais j'aimerais que vous répondiez à ma question que j'avais essayé de vous poser.
Alors dites-moi.
Alors voilà. Vous avez, Valérie Rabault a avancé un chiffrage de 106 milliards d'euros de dépenses nouvelles sur la période 2024-2027.
Oui.
Elle reconnaît que le programme économique du Nouveau Fonds Populaire va creuser les déficits. Vous maintenez cette trajectoire de dépenses ?
Alors la trajectoire de dépenses effectivement est confirmée par Valérie Rabault, c'est 106 milliards. Contrairement à ce qu'a dit Bruno Le Maire en essayant de nous diffamer, lui il parlait de 267 milliards, enfin, c'est délirant. Mais en fait,
106 milliards,
nous,
c'est déjà pas mal.
Nous finançons notre programme en allant rechercher des recettes dont Emmanuel Macron a privé le budget de l'État depuis 7 ans. Emmanuel Macron, c'est 65 milliards de cadeaux fiscaux auxquels je dois rajouter 13 milliards pour la taxe d'habitation et 50 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises.
Pour les entreprises,
50 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises sans aucune espèce de contrepartie ni sociale ni environnementale. Donc ce monsieur a appauvri le budget de l'État, a appauvri l'État français, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sous... procédure de déficit excessif.
Vous la laissez terminer là-bas, je vous donne la parole.
Donc ce que j'ai à dire, c'est que notre programme à nous, il est ambitieux et je crois que nous devons être à la hauteur aussi de l'attente des Français, mais qu'il est financé parce qu'on va rechercher de la recette en faisant un impôt sur les plus riches, l'ISF, en rétablissant l'ISF.
Sylvain Maillard répond à votre provocation.
On a une vraie différence avec la gauche. Nous sommes la majorité qui baisse les impôts. On est très fiers d'avoir baissé et d'avoir annulé la taxe d'habitation. On est très fiers de faire en sorte qu'il n'y ait plus de.
Le ratio impôt sur PIB, c'est toujours le même. C'est 46% du PIB, ça n'a pas bougé depuis que vous êtes là.
L'impôt sur les sociétés dont nous avons parlé, c'est vrai que nous l'avons baissé en 7 ans de 33% à 25%. Vous savez quoi ? Il rapporte plus d'argent. L'année dernière, il rapporte plus d'argent quand il est à 25% que quand il était à 33%. Pourquoi ?
Parce
que
c'est la même chose avec la TVA.
Le taux d'imposition, ça rapporte plus d'argent. Vous savez ce que le problème de la gauche, ce qu'elle aime, c'est taxer, taxer, taxer. Nous sommes contre le fait de continuer. On est déjà le pays qui taxons le plus. On veut de la croissance économique, de la croissance verte. C'est ça qui permettra de financer notre modèle social. C'est très clair ce que nous voulons.
Le discours de Sylvain Maillard serait beaucoup plus convaincant si sa majorité avait réussi à maîtriser la dépense publique depuis 7 ans, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Moi, j'ai des rapporteurs du budget de l'éducation nationale. Il y a des efforts superbes, très bien. Il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a moins d'enfants. Il y a, hélas, 100 000 enfants de moins chaque année en France. Il y a une diminution des effectifs et on ne voit aucun projet de diminution ou de contrôle simplement de la masse budgétaire de l'éducation nationale. Vous avez laissé l'État dans lequel vous l'avez trouvé en entrant. Il n'était pas très bien, et bien il n'est pas mieux. Et donc, vous n'arrivez pas à financer vos diminutions fiscales. Moi, je trouve formidable, plus de taxes d'habitation pour la résidence principale, formidable. Mais c'est l'État qui paye. Et l'État, il s'endette. Alors, c'est un piège à con, votre truc.
Un piège à con. Alors, parlons des retraites. Elles étaient bien sûr au menu ce matin, et pour certains partis, c'est très clair. En revanche, au Rassemblement national, on ne sait plus trop.
Ça flotte, hein.
Oui, un petit peu.
Je ne décalerai pas l'âge de départ à la retraite parce que je pense que la réforme qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron est une réforme qui est injuste socialement, qui a mis des millions de Français dans les rues du pays et qui est très coûteuse sur le plan économique. Donc moi je souhaite que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent partir à 60 ans avec 40 annuités. Au-delà, il y a une progressivité. Et c'est normal qu'il y ait une progressivité. Et cette progressivité, elle sera aussi déterminée par les marges budgétaires qui me seront données par l'auditeur.
Progressivité, enfin, oui, je vous avoue, j'ai rien compris.
Oui, alors si ça peut vous consoler, moi non plus, pourtant j'ai relancé beaucoup, ça a été du reste un moment fort de cette matinée, j'ai beaucoup relancé Jordan Bardella en disant expliquez-moi, et même à la fin, je n'ai pas complètement compris. Ce mais que j'ai compris,
je suis sûr que Sébastien Lay va nous expliquer
c'est
ça.
C'est qu'à 60 ans, ça sera pour les carrières longues. Ceux qui, évidemment, ont commencé à travailler à 18 ans dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'est nôtres. Là, on est d'accord, 60 ans. Ensuite, ça sera normalement 62 ans. Mais il dit, je n'abrogerai pas la réforme. Donc aujourd'hui, la réforme dit qu'on part à 64 ans. Il dit, mais ça sera après l'audit. Donc je lui dis, ça veut dire que pour l'instant, on ne change pas, on part à 64 ans. Oui. Mais non, mais pas complètement. Ah, je dis, écoutez, alors là, moi, je n'ai pas très bien compris, mais j'ai quand même in fine...
Pourtant, je vous sais persistante.
Oui, mais en l'occurrence, je l'ai été. Et donc, je pense qu'on part à 64 ans, mais dans un premier temps, avant l'audit, parce que rien ne va se passer avant l'audit, si ce n'est peut-être les 60 ans pour les carrières longues.
Nous sommes suspendus à votre bouche.
Premier point, moi je suis connu dans le débat public pour être un économiste libéral, et en tant qu'économiste libéral, je m'étais opposé à la réforme. J'ai toujours dit qu'elle ne servira à rien. Lisez le rapport du Conseil d'orientation des retraites, 2024-2025, ça nous coûte de l'argent. Il a d'ailleurs rappelé ce matin,
sur
la loi de finances rectificative, il l'a dit. C'est aussi des économies. Attendez. Après, sur les projections de ce que ça va nous amener, par rapport au coût politique, effectivement, par rapport aux efforts demandés aux Français, ça ne nous rapporte pas grand-chose. Donc, ce n'est pas la bonne approche. Je crois que la bonne approche, c'est...
Donc, on ne fait pas.
Attendez. Ce que Jordan Bardella a expliqué ce matin, c'est que pour les carrières les plus pénibles, pour ceux qui travaillent longtemps, il faut essayer de sanctuariser, de faire un effort. LR le demandait aussi, rappelez-vous, pendant le débat. Donc ça, on va le faire, ça, dans un premier temps. Et ensuite, pour les autres, parce que là, on parle de gens qui sont concernés par une certaine pénibilité, etc. Mais vous et moi, on a des métiers plutôt intellectuels, nous, on n'est pas du tout dans la même situation.
On est d'accord.
On est en train de réfléchir à ça. On proposera au contraire plus d'espace de liberté. Hein, pour alléger un peu les caisses de retraite. La possibilité, il en a parlé ce matin un peu, des contrats pour les seniors, de travailler, de l'actionnariat salarié. Donc vous verrez les propositions, mais en gros, on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. C'est pour ça que toutes ces réformes paramétriques...
On ne peut pas traiter tout le monde de la même manière, je vais vous dire, c'est intelligent comme réponse.
Exactement. Mais on ne traite pas tous de la même manière. Votre métier n'est pas le même que celui d'un maçon.
Vous donnez métier à quel âge la retraite?
Je vous ai donné la réponse. Il faut sortir d'une réponse générale. Pour l'instant et avant l'audit, on sanctuarise les carrières les plus longues, les carrières les plus pénibles. Et avec l'audit, on se pose la question, non pas uniquement de l'âge de la retraite, mais aussi la manière de la financer.
En fait, on n'en sait rien, j'ai bien compris. Pour le nouveau Front populaire, Chloé Ridel, c'est l'abrogation de la réforme et rétablissement progressif du droit à la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, c'est séduisant, mais là aussi, on se demande comment on peut la financer, non?
Oui, je crois que c'est...
Nous portons cette ambition de... permettre à des gens qui ont leurs 40 années d'annuité à l'âge de 60 ans de pouvoir partir à 60 ans. Ce qui compte, c'est les 40 années d'annuité. Si vous avez commencé à travailler à 25 ans, vous n'allez pas partir à 60 ans avec notre programme. Mais il faut bien qu'on comprenne. La retraite à 60 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a 60 ans, a ses 40 années d'annuité, peut partir au taux plein.
C'est logique.
C'est tout.
Non, mais.
Donc, ce n'est pas 60 ans pour tout le monde. Hein.
C'est bien sûr que vous venez de les années de cotisation.
Puisqu'il faut ces 40 ans d'annuité pour avoir la retraite à taux plein.
Mais autant clarifier les choses, c'est très bien.
C'était un peu la réforme à point d'Emmanuel Macron.
J'aimerais qu'Anne de Guigné puisse répondre.
On comprend la logique, mais ce qui, à mon sens, ne va pas, c'est que ça ne prend absolument pas en compte l'évolution démographique. Et on sait qu'il faut.
Et surtout l'allongement des études.
Ça prend en compte la souffrance des gens qui ont travaillé 40 ans, qui ont commencé à travailler jeunes dans des métiers durs et qui ne peuvent plus travailler.
J'aimerais qu'on entende Anne de Guigné.
On sait que la population française va baisser à partir de 2040, c'est l'INSEE qui le dit, avec des hypothèses de taux de fécondité bien supérieurs à ce qui a été le cas aujourd'hui. Donc sans doute, la population française baissera plus tôt.
Elle baisse.
Non, pas encore.
Les naissances.
Les naissances diminuent.
La population française baissera, sans doute, à partir de 2035, 2040. Toutes ces hypothèses de retraite, ça ne fonctionne pas. C'est sympathique. On a tous envie que tout le monde soit bien, mais ça ne fonctionne pas. Qui va les financer? Sinon, vous allez avoir des retraités extrêmement pauvres. Vous ne pourrez plus payer les pensions. Donc, à un moment donné, c'est la réalité. L'économie, c'est la réalité. Il faut que ça tourne. Et ces réformes ne marchent pas économiquement. Donc, à moins de faire le choix de dire, en effet, vous travaillez moins, mais vous aurez des pensions qui seront minorées de 20%.
Qui seront elles-mêmes amoindries.
Qui seront minorées de 20% ou des cotisations extrêmement élevées. Donc une économie française absolument pas compétitive dans la mondialisation. L'équation, elle est assez simple.
Quelle est la position, pardonnez-moi, des Républicains sur les retraites? Lors du débat à l'Assemblée, votre camp s'était déchiré, je le rappelle.
À l'Assemblée nationale, oui. Au Sénat, on a voté à quasiment l'unanimité cette réforme parce qu'on savait que c'était une étape qu'il fallait assumer. Ça ne règle pas tout. Et enfin, ma déception, c'est que le président Macron avait des idées apparemment créatrices et manifestement, il a été submergé par la réalité des faits et retraite à point, par exemple, retraite différenciée, ce que vous évoquiez, il n'a pas été en mesure de le faire. Et il n'a pas posé un problème extrêmement grave que le corps vient de découvrir. Comme
Conseil d'orientation des retraites.
Conseil d'orientation des retraites disait, bon, bah, tout ça, ça va s'arranger. Et puis, pouf, six mois après, il change en disant, non, c'est catastrophique. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les régimes de retraite payés par l'État ne sont pas intégrés dans le déficit. Or, l'État est lui-même surcotise, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une charge publique extrêmement lourde et qui interdit de
40
faire
milliards, d'autres
choses. Il aurait été intéressant creuser la question. Manifestement, le président Macron n'a pas voulu le faire. C'est un petit manque de courage, un manque de courage qui coûte cher.
C'est un gros sujet sur notre audit.
On laisse répondre.
Comprendre ça, parce qu'on n'a pas eu de réponse via le Parlement.
On se connaît bien avec Gérard Longuet.
Quand on commence comme ça, généralement, c'est qu'on ne va pas être d'accord.
On va dire une bâcherie. Moi, j'étais président de groupe. C'est extraordinaire d'entendre les Républicains dire qu'en fait, ils étaient pour la retraite à point.
Au Sénat,
c'est assez incroyable.
Mais nous l'avions demandé avec François Fillon.
La réalité, c'est que les Républicains, l'Assemblée nationale, étaient
contre. Dans notre programme
de 2017. Assumons,
parce que vous ne l'avez pas présenté.
Nous assumons un point très clair, c'est qu'il faut qu'on puisse... Nous ne voulons pas baisser les pensions des retraités. Et pour ça, il faut que nous travaillions tous un petit peu plus. Évidemment... À 64 ans, ceux qui ont commencé tôt les carrières longues, à l'heure actuelle dans la réforme, ils partent avant 64 ans. C'est déjà le cas.
C'est déjà
et donc là, j'ai l'impression qu'on réinvente quelque chose et ça rapporte 15 milliards, entre 15 et 18 milliards à partir de 2027. C'est vrai que ça coûte un peu d'argent au début. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a revalorisé les petites pensions. Et nous, on est très fiers. Si vous êtes contre le fait d'avoir revalorisé les petites pensions, ben nous en sommes très fiers. Il n'y a plus une pension pleine en dessous de 1 200 euros, et c'est très bien ainsi.
Vous gardez la parole.
Attends, Sylvain, moi je pense une chose, c'est que pourquoi le président Macron a de grandes déceptions électorales ? Parce qu'il a soulevé des tas de projets, affiché des ambitions, et qu'il s'est endormi sur leur mise en œuvre.
Bah c'est aussi parce qu'on a eu à l'Assemblée nationale
Gérard Longuet distribuer les bons points ce soir.
Des républicains qui n'ont eu aucun courage et qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leurs idées.
Vous avez eu un quinquennat avec une majorité absolue, quand même. Vous aviez tous les pouvoirs.
On ne va pas refaire le quinquennat. Vous gardez la parole, Sylvain Maillard, avec un autre sujet sensible, les impôts. Évidemment, Gabriel Attal a déclaré ce matin, alors que les autres blocs n'ont que les impôts à la bouche, nous prenons un engagement, inscrire dans la loi une règle d'or budgétaire, pas de hausse d'impôts quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il ne s'avance pas un peu trop ? Je vous avoue qu'on a du mal à y croire. Et est-ce que vous pensez y arriver en baissant uniquement les dépenses ?
Vous me dites que vous n'arrivez pas à y croire. Ça fait 7 ans que nous sommes au pouvoir. Nous sommes la majorité qui baisse les impôts. On en a dit tout à l'heure, on peut le contester. Nous baissons les impôts. Les impôts pour les contribuables, taxes d'habitation, contributions audiovisuelles, et puis pour les entreprises, entre autres, l'impôt sur les sociétés, et nous avons commencé à baisser les taxes sur les impôts de production. Et donc nous allons continuer, parce que plus nous baissons les impôts, plus nous créons de l'emploi, plus nous créons de la richesse et de la croissance écologique, et en même temps, notre objectif, c'est que le travail paie plus. C'est cohérent. Si on veut financer notre modèle social, il faut plus de croissance. Regardons les pays où ça ne fonctionne bien. C'est parce qu'ils ont plus de croissance. Plus d'impôts, c'est moins de croissance, c'est plus de chômage. On s'y connaît là-dedans. Ça fait 50 ans que ça fonctionne comme ça. Nous voulons baisser les impôts. Continuer à baisser les impôts. Au moins, on est crédible là-dessus. Ça fait 7 ans que nous sommes...
C'est vrai que le taux de fiscalité en France est quand même très, très élevé. Oui. On a un taux de prélèvement obligatoire qui est un des plus élevés d'Europe et même
c'est
des
toujours
pays.
Le même. Il n'a pas bougé en 7 ans.
Non, absolument. Mais parce qu'il y a eu la hausse des cotisations.
Exactement, mais c'est 46% du PIB, ça n'a pas bougé.
Donc ce matin, je posais la question à Bruno Le Maire. Il a dit, règle d'or, je l'inscris, sinon... Je démissionne, je ne serai plus ministre de l'économie et des finances, ce qui va peut-être se passer de toute manière.
Oui.
Mais parce que je lui posais la question, souvenez-vous, vous avez écouté, comme nous tous, la conférence de presse d'Emmanuel Macron. En réponse à une question, il a dit, ça dépendra de la majorité avec laquelle on devra gouverner. Il a entrouvert une porte. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une règle d'or, même si c'est ce qu'a dit Gabriel Attal.
Alors,
petit bémol,
Petit bémol. Chloé Ridello, au nouveau Front populaire, en revanche, on augmente les impôts, mais seulement pour les riches.
Enfin,
les plus riches, si je puis dire, d'ailleurs.
Vous demandez un effort. Je
vous donne la parole ensuite. Vous demandez un effort de patriotisme économique, notamment aux milliardaires. Vous n'avez pas peur de faire fuir ces gens ?
Mais attendez.
Là, il contribue. Hein.
Quand l'ISF était encore en vigueur dans notre
les
pays,
fiscales,
il y avait seulement 0,3% d'expatriation du fait de l'ISF. Donc, ce n'est pas parce qu'on le rétablit que ce sera davantage. Mais moi, je vais vous dire que nous augmentons effectivement les impôts pour les plus riches. Parce que ces dernières années, nous avons assisté, et tous les économistes le corroborent, comme Thomas Piketty, à une concentration des richesses et une concentration du capital. Et donc, nous voulons briser ce cercle vieux qui devient toujours plus riche dans notre pays, mais partout en Europe. Et donc, nous augmenterons... Nous ferons l'impôt sur le revenu de façon différente, de sorte que l'impôt sur le revenu augmentera pour les personnes qui touchent plus de 4 300 euros par mois, c'est-à-dire 83% des Français se situent en dessous de cette limite. Nous rétablirons l'impôt sur la fortune et également un impôt sur l'héritage, parce que nous sommes dans un pays, et pour ceux qui aiment le travail autour de cette table, ça devrait tous vous choquer, où on s'enrichit plus par l'héritage qu'en travaillant toute sa vie. Et donc, notre
si on a
programme
toute sa
en matière
vie pour
fiscale,
chose à ses
c'est
enfants,
de rétablir de la justice.
4 300 euros.
Un milliardaire est beaucoup moins imposé en proportion de son revenu qu'une personne modeste en France.
C'est le Français moyen.
Taxe de 100%.
Ah bon, mais où vivez-vous, monsieur? 85% des Français gagnent moins de 4 000 euros par mois. Donc, c'est
une économie.
Et donc, 4 300 euros, c'est pas riche. C'est
un économie. 4 300 euros, c'est pas riche.
C'est un moyen, 4 300 euros.
C'est invraisemblable.
Oui. Et puis, vivons en couple, enfin, c'est beaucoup plus compliqué.
Ah bon, un Français moyen, 4 300 euros.
Ce qui est vrai, c'est qu'une économie a besoin de locomotives.
4 300 euros.
Oui, voilà, vous êtes élu de Paris, ça ne m'étonne pas.
Les Parisiens, ils n'existent pas. Dans les grandes villes, 4 300 euros, vous estimez être riche quand vous gagnez
4 300 euros à Paris, mais vous savez, Paris n'est pas la France. Et 85% des Français gagnent moins de 4 500 euros.
Mais non, monsieur. Oui, Sébastien Lahaye. Alors, vous supprimez les niches fiscales.
Un éclairage d'économiste. Vous regardez la définition. Classe moyenne, classe pauvre, c'est le Pew Center. En France, à partir de 3 500 euros, vous êtes dans les 20% techniquement les plus riches.
Alors, vous supprimez certaines niches fiscales, mais surtout, vous voulez réduire de 2 milliards d'euros la contribution de la France au budget européen. Ça veut dire qu'il faut revenir sur les engagements actuelle de la France dans le budget européen, que la décision soit prise à l'unanimité et des États membres du Conseil européen et qu'il y ait un vote du Parlement encore européen. Bah dites donc, c'est compliqué.
C'est pas gagné votre histoire.
Ouais, mais en gros, c'est impossible pour dire les choses.
Non, pas du tout. Il y a une voie. Donc c'est démagogique. Il y a déjà d'autres pays qui se sont engagés dans ça et c'est parfaitement cohérent avec les engagements du Rassemblement national. À partir du moment où on a une vision plus
avec vos engagements, oui.
Avec vos engagements. Mais il faut regarder les engagements financiers parce qu'aujourd'hui on est net perdant. Donc il faut pas demander. Poser la question de savoir où vont nos impôts, c'est les Français qui payent
ces
cotisations.
Anne de Guigny, je vous ai vu sourire.
Ça sort pas comme ça du chapeau. Hein.
Non, j'ai bien compris.
Mais c'est vrai que notre débat, mais bon. Une fois de plus, c'est des programmes qui ont été ficelés en deux jours. Je pense que la dissolution n'était pas prévue. Oula. Mais ça, c'est un peu surréaliste parce qu'on ne parle que de.
On ne parle que de pouvoir d'achat,
de fiscalité. Mais le problème, en effet, c'est la croissance. C'est d'abord c'est l'innovation, la productivité. Alors comment on va créer de la richesse et pourquoi pas après de le donner plus aux personnes défavorisées. Mais là, on est dans un débat complètement à somme nulle. Qui est très typique de l'état du pays, mais c'est un petit peu.
Je ne veux pas dire que c'est affligeant,
mais je ne pense pas que ce soit le problème.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire, à contrario, que quoi qu'il arrive, les impôts augmenteront malgré les promesses de campagne?
Moi, je pense que. J'écoutais ce que nous disait Sylvain Maillard, et en effet, c'est la règle d'or, mais. L'idée de baisser les impôts, en effet, je pense qu'elle est excellente pour l'économie en soi si on tient le budget. Et en fait, ces baisses d'impôts ont été financées par une augmentation de la dette. Et là, on voit bien qu'on arrive au bout. Donc, si on arrive à tenir le budget.
C'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. On a plus les prélèvements, par exemple, sur l'impôt sur les sociétés. Le revenu de l'impôt sur les sociétés n'a jamais été aussi fort que dans les années où on l'a baissé. Donc j'entends ce que vous dites, il faut créer de la croissance. Mais ça, on est d'accord, c'est la base de la politique que l'on veut porter. Mais pour créer de la croissance, il faut baisser l'impôt. Et donc, partir du principe qu'en fond, on ferait de la croissance en augmentant les impôts,
c'est ce qu'on a fait
pendant 30 ans, ça ne marche pas.
Les
7 dernières années ont prouvé que plus vous baissez les impôts, plus vous avez des rentrées fiscales, non seulement vous financez votre modèle social, mais en plus, vous donnez de la compétitivité à la France. Alors, ça fait 7 ans qu'on est,
rappelez-nous, la croissance,
qu'on est le pays le plus attractif.
Rappelez-nous la croissance moyenne.
On n'est pas en récession.
Pourquoi c'est en France qu'on va investir parce qu'on a baissé les impôts.
Mais le problème,
votre question est intéressante. Moi, j'aimerais entendre Gérard Longuet sur les impôts. Quel est le point de vue des LR?
Je vais attendre Monsieur Maillard.
Oui.
Le point de vue des LR, c'est que nous avons le besoin absolu dans une économie ouverte d'être compétitif avec les pays qui ont les mêmes ambitions que nous. Et donc, il faut en effet, sur les impôts de production, poursuivre l'effort qui était engagé par le gouvernement, parce que nous sommes encore plus lourds et plus coûteux que nos partenaires industriels, et pas seulement les Allemands, la plupart des pays industriels européens.
Donc, continuer les efforts, ça veut dire quoi ?
Compétitivité fiscale. On n'a pas besoin de prélever plus que prélèvent les Européens en moyenne, catégorie par catégorie. Et c'est la raison pour laquelle je suis en désaccord total avec ce que vous proposez, ouais, qui est de faire payer les riches, parce que ça, une économie a besoin de locomotives, et si vous et avez des impôts
du ruissellement,
en France,
plus lourds, n'a jamais marché, monsieur,
plus pesants que dans les pays concurrents, vous cassez l'ambiance.
La suppression de l'ISF a juste créé une économie de la rente.
L'ambiance d'entreprise.
Le ruissellement n'existe pas.
Non,
mais c'est ce que nous dit notre représentante du Parti socialiste. Voilà. Comme on ne l'a pas entendu, je voulais le dire pour elle. Voilà. Edwige Chevrillon, l'arrivée des extrêmes au pouvoir pourrait remettre en question les investissements étrangers en France, ou c'est de la propagande du RN, ça ?
Non, ce qu'on peut dire, c'est que la France est devenue le pays le plus attractif.
Anti-RN, pardonnez-moi, anti-RN. Excusez-moi, anti-RN.
Je suspendais ma réponse. Non, la France est devenue le pays le plus attractif au niveau européen, ça c'est sûr. Là, vous voyez Microsoft, il a promis d'investir 4 milliards, d'accord, avec des data centers un peu partout en France. Mmh. Il a passé un coup de fil, il a dit, je vais peut-être attendre.
Ah oui ?
Bah oui, il y en a d'autres qui ont dit, je vais attendre de voir ce qui se passe en France. Un investisseur qui fait un pari sur un pays pendant longtemps, sur une longue période, c'est un peu normal qu'il regarde un peu la situation politique. On était sortis un peu de l'instabilité politique, oui, qui caractérisait la France, comme on le disait tout à l'heure. Là, on replonge dans nos vieux travers. Et là, du coup, je pense qu'il y en a certains qui sont venus à Versailles, qui sont venus dans le cadre de Choose France. Il y en a certains qui commencent à mettre... ils sont sur la pédale frein. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais en tous les cas, ça bloque un peu, pour l'instant, l'attractivité de la France.
Une phrase.
Oui, bien sûr. Vous connaissez mon parcours international entre les États-Unis et la France. Oui. Moi, les investisseurs, je leur parle tous les jours. Aujourd'hui, ils réagissent à la dégradation de la note financière de la France, à la procédure pour budget excessif et la dissolution elle-même, le chaos politique créé par Emmanuel Macron. Pas au détail des programmes qui sont pas finalisés dans certains cas et qui ne regardent pas.
Mais le fait d'avoir des extrêmes...
C'est vous qui utilisez ce terme d'extrême. Je ne crois pas que les opinions publiques des autres pays les voient forcément ainsi. Sachant que ces changements, ils se sont produits dans d'autres pays. En Italie, en Autriche, aux États-Unis. Pour l'instant, ils réagissent au chaos actuel. C'est à nous de sortir du chaos.
Gérard Longuet,
c'est à nous de ramener du réalisme.
Une dernière question, elle sera pour vous. Ce matin, sur France Info, le banquier d'affaires et patron de presse Mathieu Pigasse a appelé à voter nouveau Front populaire. Pour lui, le sujet n'est pas économique. Il dit que c'est un choix de société.
Ça vous semble que le premier Front populaire s'est terminé par la guerre et la défaite. Non, je le rappelle.
Donc les congés payés, ça vous ne vous en souvenez pas. Vous réduisez l'histoire du Front populaire à ça, mais c'est une honte, monsieur.
Bon,
c'est une honte, monsieur.
Ça, c'était pour mon côté historien.
Mathieu
Pigasse est un homme charmant, il a des convictions, il a le droit de les exprimer. Mais on n'est pas obligé de l'écouter, parce que ses convictions n'ont pas conduit au succès des politiques qu'il a soutenues lorsqu'il en avait la possibilité, notamment avec François Hollande, par exemple, ou avec François Mitterrand, qui était un homme d'une qualité exceptionnelle, mais qui a quand même appauvri notre pays pendant 14 ans.
Allez, on termine avec cette petite page d'histoire que vous venez de nous proposer. Merci infiniment les uns et les autres.